Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps où nous avons pu vraiment te rencontrer aussi à travers les chants, l'écoute de ta parole, à travers aussi l'intercession. Nous avons vraiment ressenti ta présence, Seigneur, et agis vraiment aussi dans notre cœur pour recevoir encore ta parole dans notre entendement, dans notre cœur. Pour ceux qui sont ici présents et aussi ceux qui sont en distanciel, que ta gloire se manifeste à travers notre vie et que ton esprit aussi m'inspire pour que je puisse transmettre seulement ta parole. Nous te louons pour tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est la semaine des vacances. Je pense que les enfants sont contents d'être en vacances. Je vois aussi pas mal de personnes qui sont en déplacement. Voilà, la fête de Noël se fait sentir avec ses lumières et ses décorations. Chez vous, peut-être dehors aussi, dans les ruelles, en ce moment. Mais c'est vrai que j'ai l'impression en ce moment qu'il y a moins de décorations quand même. Peut-être suite au Covid en ce moment. Ce matin, j'aimerais vous inviter à vous faire réfléchir sur la lumière que nous pouvons voir ici présent. Et la lumière, bien sûr, dans les évangiles, d'après le Seigneur, c'est Jésus qui est venu sur cette terre en tant que lumière. Et j'aimerais vous inviter déjà à voir dans Jean, mais avant, ce serait bien aussi de voir dans les autres évangiles comment c'est décrit pour l'arrivée de Jean. Quand nous voyons dans Matthieu et dans Luc, la naissance de Jésus, son enfance, est bien décrite de manière assez minutieuse, en détail. On voit la naissance de Jésus avec ses parents, Joseph et Marie, mais aussi, nous voyons aussi les rois mages, l'histoire des rois mages que nous connaissons tous. Mais dans Marc, dans l'évangile de Marc, c'est un peu spécial. On ne voit pas du tout la naissance, mais plutôt l'apôtre Marc s'est concentré sur le ministère de Jésus. Donc là, tout à coup, on voit bien sûr Jésus, 30 ans, en train de commencer son ministère dans Marc. Par contre, le verset que nous allons voir aujourd'hui, c'est dans Jean, dans l'évangile de Jean. Et le point de vue de Jean est un peu intéressant parce que il commence ni par son ministère, ni par la naissance de Jésus, mais plutôt une description sur l'identité de Jésus. Et j'aimerais vous lire d'abord le premier verset où il est dit dans Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Voilà, tout à coup, Jean commence par cette lecture en disant que « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, il y a une description comme quoi il y a cette parole qui a participé à la création de l'univers. Et en fait, cette parole était Dieu aussi. Dans Genèse 3, 1, 3, il est dit, Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. Voilà, plus tard dans Jean, on voit bien que cette parole, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu, Jésus-Christ, il n'a même pas commencé son ministère, dans Jean, il a même pas encore commencé son ministère sur la terre, mais il décrit qu'il a déjà en fait commencé son ministère bien avant. Il y a plus de des années de cela, pendant la création déjà il était présent et même avant aussi. Il insinue qu'il était même présent puisqu'il était Dieu lui-même. Dans Genèse 1, 3, il est dit Dieu dit, c'est la parole de Dieu qui a participé à la création de Dieu. Et il était même Dieu, le Fils de Dieu. Il œuvre donc pour la création, et c'est lui qui est la base de cette lumière. Jésus lui-même étant la lumière, voilà, il est venu comme avec cette lumière. Noël, c'est la venue de Jésus-Christ dans le monde. Par sa seule présence, Jésus illumine chaque être humain. On voit dans Jean que ce Jésus, le Christ, le Messie, il s'est fait homme, il est venu dans notre monde obscur, et désormais, nous ne sommes plus seuls dans nos ténèbres, puisque Jésus-Christ s'est révélé à nous sous la forme d'une parole accessible, sous la forme d'une parole porteuse de sens, sous la forme d'une parole qui nous fait vivre, parce qu'il ne nous condamne pas. Au contraire, à travers son ministère, il nous a pardonnés et nous a sauvés. Bien sûr, en venant dans le monde, il a pris aussi le risque d'être rejeté. D'ailleurs, il l'a été. Mais dans ce prologue de Jean, nous rappelle que les ténèbres n'ont aucune place. Et surtout, les ténèbres n'ont aucune prise sur cette lumière qui brille. Et là où il brille, il n'y a plus de ténèbres. Là où la lumière est présente, ben c'est parce que Jésus brille dans cette vie. Sa présence fait disparaître les ténèbres. En tout cas, nous avons en tout cas pas mal de lumière dans cette salle. Et puis nous avons aussi, comme disait Zach, allumé les 4 bougies pour préparer la venue de Jésus, ou plutôt qui est déjà venu, pour se souvenir de la venue de Jésus. Et cette super décoration à l'intérieur de l'église, mais aussi toutes ces décorations dans nos rues, devraient justement nous faire penser qu'il y a la présence de Dieu dans le monde, mais aussi dans nos vies, pour chasser les ténèbres par sa clarté, par sa lumière. En tout cas, il est venu en tant que lumière sur cette terre. Voilà, on pourrait justement imaginer que cette lumière est venue. Éclairer le monde. Bon. Je suis pas très doué. Hein. Faut pas rigoler. Oh là là. Bon. Deuxième essai. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Ah, ben voilà. La lumière qui est venue nous éclairer. Sur chaque individu. Et, enfin, je ne pouvais pas tenir la lumière, mais vous voyez bien que c'est la même lumière, même forme, même luminosité. Même nature, et cette lumière qui est venue sur cette terre, il nous a éclairés, il nous demande aussi d'être la même chose. Ce serait bien en tout cas de vérifier notre état de lumière en ce moment. Dans Luc, chapitre 11, verset 35-36, il est dit que « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre ». Ça veut dire que cette lumière que nous avons reçue peut être déternie. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. J'aimerais lire encore un autre verset dans 1 Jean, chapitre 1, verset 5 à 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Voilà, nous sommes en communion avec Dieu. Notre péché pardonné, c'est comme ça que nous pouvons marcher dans la lumière. Nous pouvons vivre en tant que lumière. Lorsque cette lumière est entrée en nous, souvenez-vous, les pénombres, les ténèbres, sont disparus, sont chassés même. Et peut-être en vivant une vie, en faisant des compromis avec le monde, peut-être que cette lumière est ternie. Mais le Seigneur aimerait vraiment qu'on soit complètement éclairé, pas seulement une partie de notre corps, mais tout le corps entier. J'aimerais vous faire réfléchir à travers les sacrifices que nous faisions à l'époque de l'Ancien Testament. Vous savez qu'à l'époque de l'Ancien Testament, il y avait plusieurs sacrifices que les Israélites faisaient en l'honneur de Dieu. Tout d'abord, une fois par mois, ils faisaient des sacrifices d'expiation pour leur pardon du péché, bien sûr. Et puis, toutes les fois où ils se souvenaient de leur péché, ils pouvaient venir au temple, à la tente de la rencontre, pour demander au prêtre de purifier son péché. Et puis, ils pouvaient aussi venir au temple pour la communion fraternelle, pour remercier le Seigneur, etc., etc. Il y avait plusieurs sacrifices. Mais parmi tous ces sacrifices, il y en avait un qui comptait plus que les autres. Il s'agit du jour du grand pardon, Yom Kippour. Ça se réalisait en général le 10 juillet. Donc, vous savez qu'en Israël, l'année commence le 1er juillet. C'est dans le calendrier des Juifs. Et donc, 10 jours plus tard, donc, dès que l'année commence, ce qu'il faisait, c'était, pendant 10 jours, il préparait ce jour de Yom Kippour. Et le grand prêtre, bien sûr, ce jour-là, venait d'abord faire des sacrifices, et puis, avec le sang sacrifié, il entre dans le lieu des saints. Ah, t'as pas une lumière ? Ah, ce serait bien quand même. Ah, il y a plus de fil. C'est pas grave. Vous voyez bien que, voilà, l'Esprit de Dieu qui agit, qui se manifeste sur l'arche de la rencontre à travers la fumée. Et voilà, donc le prêtre, le grand prêtre, rentrait dans cette salle qui s'appelait le lieu saint des saints, et il, avec le sang sacrifié, il faisait de l'aspersion, 7 fois comme ça, sur l'arche de l'Alliance pour demander pardon. Et d'abord pour demander pour le péché de lui, le grand prêtre, mais aussi pour toute sa famille. Alors, on peut passer. Il y avait plusieurs sortes de... Encore. Plusieurs sortes... Encore, l'Arche de l'Alliance. Plusieurs sortes d'animaux qu'on sacrifiait. Tout d'abord, il y avait un petit taureau. Et puis, les 2 béliers en haut, que les 3, on le faisait donc par holocauste. On brûlait entièrement. Et puis... ce matin, j'aimerais encore qu'on s'intéresse à ce 2 boucs qui est présent ici, dont l'un était sacrifié, mais l'autre relâché. Après la purification, d'abord en sacrifiant tous ces animaux, d'abord les 3 animaux, ils purifiaient d'abord le temple, l'autel, etc. Après la purification de l'autel et du temple, il prend le bouc et il impose avec ses 2 mains, le grand prêtre, en confessant sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. On appelle ça la substitution. C'est-à-dire que ce bouc a pris tous les péchés à notre place sur lui. Puis le prêtre le chasse. Enfin, d'abord, il tire au sort. Qui va partir, etc. En tout cas, il tire au sort et puis il le chasse dans le désert avec l'aide d'un homme dans une terre aride. Et c'est là où il va mourir. Voilà, donc après, il revient, etc., etc. De nouveau, l'Holocauste, il fait de l'Holocauste pour l'expiation, pour lui et pour le peuple, etc. De nos jours, cette rite s'appelle la repentance. On substitue tous nos péchés sur le sacrifice de Jésus pour que nos péchés soient transférés d'abord sur lui, mais aussi qu'ils soient pardonnés. Et à travers le rite, ce rite, ce que nous pouvons comprendre, c'est que, donc après le transfert du péché, en faisant éloigner ce bouc, ça signifiait que nous ne voulons plus voir le péché qui était commis par le peuple. Nous ne voulons plus voir le mal revenir dans notre vie. C'est pour ça qu'on le chasse. C'est comme si on prenait une résolution, une détermination pour ne plus commettre le mal. On est quitte avec le mal, on est quitte avec les ténèbres. Et de même, la repentance, oui, n'est pas seulement de déposer nos fardeaux, nos prières, de demander pardon et de commettre de nouveau l'iniquité ou l'injustice, mais la vraie repentance, c'est de laisser partir et ne plus faire revenir ce péché qui était en nous, mais maintenant pardonné. Alors, de nos jours, le Yom Kippour, on pourrait même considérer comme le... Enfin, le Yom Kippour, c'est le jour de grand pardon. Et si j'interprète avec notre langage actuel, je dirais, c'est le jour du grand nettoyage. Vous savez, nous faisons deux grands nettoyages, le nettoyage de printemps avec toute l'Église, etc., pour... nettoyer en fond en comble toute l'Église. De même, le Seigneur aussi aimerait qu'on soit, qu'on nous regarde d'abord tout près, de manière de plus près, en détail, pour qu'on soit nettoyé complètement, purifié complètement. L'homme aujourd'hui peut être en bonne santé d'apparence, mais vous savez qu'avec le Covid, il se peut qu'il soit aussi atteint de la maladie. Parce qu'il a attrapé le virus. Et contre cette virus, bien sûr, il faut que l'homme se fasse tester. Et s'il est malade, il faut qu'il soit soigné. Qu'il se fasse soigner par des peut-être vaccins qui vont commencer bientôt, ou par des traitements qui vont aussi bientôt sortir début de l'année prochaine. De même, voilà. Ah oui, je voulais aussi vous dire, le bouc qui est parti loin, vous savez, le mot bouc émissaire vient de là, en fait. Ça s'appelle Azazel. J'aimerais vous lire dans Lévitique, chapitre 16, verset 8, où il est dit « Aaron rejeta le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. » Autrement dit, je lis avec la version, la Vulgate. Aaron jetera sur les deux boucs deux sorts, un sort pour le bouc du Seigneur et un sort pour le bouc émissaire. Le terme bouc émissaire vient seulement après 400 ans après Jésus-Christ. Je me rappelle, quand je lis ce mot bouc émissaire, ça me rappelle le cours que j'ai eu en seconde. C'est un cours que j'ai reçu à l'école pendant le cours de sociologie. Il y avait un truc comme ça. Oui, hein, vous avez toujours le cours de sociologie? Non? En seconde, oui. C'était économie, un truc comme ça aussi. C'est en cours de l'économie que j'ai eu des cours de sociologie. Et donc, le prof nous racontait, pour que la société continue à exister, parfois... Il était nécessaire de prendre, quand il y avait des malheurs qui arrivent dans la société, il fallait prendre un coupable, il fallait un bouc émissaire pour que les autres soient heureux en le condamnant. Et c'est ça en fait, ça vient de là. Et le Seigneur, la différence entre le Seigneur et ce bouc émissaire, c'est que le Seigneur, bien sûr, lui, en tant qu'innocent aussi, il a pris tous nos péchés sur lui pour que nous soyons en paix. Pour que nous soyons vraiment sauvés aussi par la suite. Cette lumière qui est venue nous éclairer, nous éclaire aussi pour nous faire comprendre que notre vraie image, c'est-à-dire nous sommes enfants de Dieu. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 15, il est dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme les flambeaux dans le monde. » Ça veut dire que lorsque nous recevons cette lumière, nous devenons aussi visibles par rapport au monde où nous vivons au milieu d'une génération perverse et corrompue. J'aimerais encore terminer avec ces deux versets, deux lectures. Dieu, en tout cas, appelle tout le monde à changer de vie et entrer dans le royaume de lumière. Dans les Actes, chapitre 26, il est dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Donc après avoir reçu cette lumière, nous devrions justement aussi transmettre cette lumière à ceux qui sont autour de nous. Après votre conversion à Jésus-Christ, notre conversion, nous devrions devenir une lumière dans ce monde. Dans Matthieu 5, versets 14 à 16, il est écrit « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, oui, il y a plus de 2000 ans, tu es venu sur cette terre pour le pardon de nos péchés. Et non seulement tu l'as accompli parfaitement, mais aussi tu nous as donné aussi cette lumière à travers ton esprit, dans notre cœur, pour que nous demeurions ensemble avec toi tous les jours de notre vie. Et comme cette rite de l'Ancien Testament, je nous appelle vraiment à nous faire éloigner de ce péché que nous avons pu commettre dans le passé, mais aussi nous habituer à cette communion éternelle avec toi, Seigneur. Une communion sincère, authentique avec toi tous les jours de notre vie, pour que la lumière que nous pouvons briller puisse aussi atteindre à ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, nous sommes en pleine période de Noël et peut-être nous allons rencontrer certains membres de famille pour passer ensemble le temps, que nous puissions aussi leur rappeler pourquoi nous fêtons cette Noël. Oui, nous fêtons la venue, ta venue, il y a plus de 2000 ans, toi qui es venu pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous relever, pour nous restaurer, Seigneur. Et bénis en tout cas chaque famille respective qui vont passer ce Noël en pensant ce que tu as déjà accompli sur cette terre. Seigneur, oui, merci encore pour cette lumière qui agit, qui demeure en nous. Au nom de Jésus. Amen.